Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. À partir de plusieurs dates clés de sa vie, cet invité va vous raconter son parcours, ses passions, donc son histoire. Mais les clés d'une vie, vous le savez aussi, ce sont d'autres histoires liées à votre vie. Allez, comme tous les jours, grâce à ces clés, j'ouvre maintenant la porte à nos souvenirs. Quand sa voix nous prend par la main, nous sommes à nouveau les enfants que nous n'aurions jamais dû cesser d'être. Grâce à sa femme, pour lui c'est tous les jours Noël, mais aujourd'hui c'est nous qui sommes à la fête. Car il va nous présenter son nouvel album, dont le titre correspond à celui que le public vous doit, car il s'intitule Respect. Bonjour Yves Dutheil.
Bonjour Jacques.
Alors cet album avec 12 chansons nouvelles qui est magnifique, on en reparlera dans quelques instants, dans la seconde partie de l'émission, mais le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter, de mieux vous connaître à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 8 février 1969. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Attends, je vais vous faire entendre quelque chose qui va vous aider.
Pour une noisette,
petite écureuil,
je sors de ma cachette.
Alors,
Alouette, Alouette, une chanson de Gilles Dreux que vous interprétez, Yves Dutheil.
Au Petit Conservatoire de Mireille.
Votre première apparition à la télévision.
Incroyable, oui, tout à fait.
C'est étonnant, ça.
Oui, oui. En fait, à l'époque, il n'existait pas beaucoup de portes d'entrée, donc pas beaucoup de clés. Et Mireille en était une, mais importante. C'est-à-dire que, instinctivement, je me suis adressé à elle, je suis allé passer l'audition. Et elle m'a accueilli au Petit Conservatoire de la chanson, qui était le The Voice de l'époque, on va dire,
oui.
un peu globalement, mais qui était une sorte de premier contact avec la profession où on pouvait faire des radios, de la télévision, se confronter à d'autres artistes, écrire pour d'autres, chanter les chansons des autres, etc.
C'est-à-dire qu'en fait, le Petit Conservatoire était né sur une idée de Sacha Guitry, en 1955. À la radio, le directeur de la Radio Nationale avait donné 6 mois à Mireille pour tester son émission. Elle est devenue ensuite une émission de télévision qui a duré 25 ans.
Oui, oui, c'était extraordinaire parce qu'on avait l'impression d'être des professionnels qui débutaient sans danger. On était exposés vis-à-vis du public. Je revois des gens qui ont vu des émissions du Petit Conservatoire m'en parler. Et ça a effectivement marqué.
Alors, la chanson, c'est votre passion depuis vos très jeunes années. Au départ, il n'y avait aucune raison, car je crois que vous êtes d'une famille de bijoutiers, et vous avez décidé de prendre une autre voie, Yves Dutheil.
Ben oui, j'étais pas tout à fait dans la norme. Alors, comme tous les enfants qui sont loyaux vis-à-vis de leurs parents, j'ai essayé de coller à l'image que mes parents avaient de mon avenir, et je suis allé dans les filières qu'ils m'avaient pressenties.
Donc, le droit, je crois, non ?
Le bac, droit, ouais. Sciences éco... école commerciale. J'ai même fait un stage dans une fabrique de bijoux,
oui,
pour essayer de me confronter un peu au côté matériel de l'or. Alors j'ai appris des choses merveilleuses, parce que c'est vrai que dans ces moments-là, on vit quand même des choses. Et je me suis rendu compte que dans cette usine où on manipulait de l'or, tous les employés passaient à la douche après le travail, et que toutes les eaux étaient récupérées, et qu'à la fin de l'année, on récupérait 1 kilo d'or.
Incroyable.
C'est des petites choses comme ça, que public ne sait pas toujours, mais que voilà.
Alors, votre premier bijou, ça a été un piano, parce qu'avant de jouer de la guitare, vous avez joué du piano et de l'orgue, Yves Dutheil.
Du piano avec Mademoiselle Parent, qui s'échinait à essayer de m'apprendre le solfège. Et moi, je contournais la difficulté en apprenant les morceaux par cœur et en faisant semblant de lire la partition. Et je déchiffrais la marche turque ou des morceaux comme ça tout seul. Et puis après, je venais lui jouer avec mon doigté. Elle était quand même un peu surprise, mais un peu déroutée aussi. Et puis l'orgue, c'est au lycée, avec mes copains de classe, on avait monté un orchestre et on faisait des morceaux, des répétitions.
Et oui, et je crois qu'il y avait une chorale aussi que vous accompagniez à l'orgue, Yves Dutheil.
Ben, j'ai fait plein de choses. Alors je jouais sur ce fameux orgue Farfisa, qui était l'ancêtre du synthé d'aujourd'hui, avec des touches grises qui faisaient les basses à gauche. Et j'étais l'organiste. Donc j'ai aussi fait partie d'un orchestre avec mon ami Patrice Marquis. À l'époque, c'était vraiment... Pour moi, il jouait de la guitare comme Django Reinhardt, j'étais fasciné. C'est lui, d'ailleurs, qui m'a donné envie de me mettre à la guitare.
Carrément. Parce qu'un jour, vous avez décidé que la guitare serait votre instrument.
Oui, parce que arriver chez des amis avec un piano, c'est pas très très facile.
C'est pas terrible, non.
Donc ça facilitait les rapports. Et du coup, j'ai commencé à jouer sur la guitare des copains. Des trucs des Beatles, des morceaux. Et j'ai demandé à mes parents de m'offrir une guitare. Et dans les semaines qui ont précédé, je m'étais bricolé un faux manche de guitare avec les cordes dessinées et les barrettes. Et j'avais pris un livre pour essayer de m'exercer à faire les positions des accords avant d'avoir la guitare.
Et puis ensuite, il y a eu l'école du cabaret, ce qui n'est pas évident aujourd'hui. Ça aussi, ça a été important pour vous, Yves Dutheil.
Alors, j'ai fait plusieurs choses. C'est dire, en fait, ça montre à quel point il y a une vraie détermination. Parce que faire ce métier, c'est comme une obsession, en fait. Et donc, j'ai commencé à faire la manche dans les restaurants. J'allais rue de la Contrescarpe dans un restaurant qui s'appelle le Pot de Terre, puis un autre qui s'appelle le Pot de Fer.
Dev faisait exactement comme vous à cette époque, d'ailleurs.
Au même endroit, ouais, peut-être.
À peu près, oui.
Et puis, il y avait une pizzeria, rue Vaugirard. Et puis, j'ai connu des gens qui m'ont vu dans ces restaurants, qui m'ont revu après à la télé et qui m'ont dit « On était curieux de savoir si ce jeune homme qu'on avait vu à tel restaurant, c'était pas celui qu'on a reconnu à la télévision plus tard. » Et c'était vrai. Et donc, ça, c'était mon premier public, le vrai premier. Et puis après, j'ai fait les cabarets, l'Échelle de Jacob, l'Écluse.
Qui existait à l'époque où on avait tous sa chance pour débuter.
Voilà.
Devant un public qui n'écoutait pas toujours, d'ailleurs.
Non, le public était, bon, sympa, mais pas très attentif, c'est vrai. Mais il fallait aussi aller à la conquête des gens. Et j'ai remplacé Marie-Paul Bell, j'ai remplacé Jacques de Broncard. Je me suis dit, je chante là où Barbara a commencé. Brel aussi,
et Guy Béard et quelques autres. Et puis, il y a eu le premier disque, Virage. Comment avez-vous réussi à convaincre un producteur de vous engager pour un 45 tours, Yves Dutheil ?
C'est une belle histoire. J'avais rencontré un ami guitariste qui s'appelle Guy Lukowski et qui m'apprenait en fait à jouer autre chose que Gling et Glong à la guitare. Et puis un jour il m'appelle, il me dit « Écoute, je suis embêté parce que je devrais faire un spectacle pour Noël à la Resserre au Diable près de Beaubourg et je pourrais pas. Donc est-ce que tu pourrais éventuellement me remplacer ?» Ben, j'ai dit « D'accord ». Donc je suis allé et là je rencontre Geneviève Bailac qui était l'auteur de La Famille Hernandez. Et donc je fais cette soirée. Mais elle me rappelle, et elle me dit « Je suis en train de monter un spectacle avec Cléo Berger et Olivia Orlandi. Un petit spectacle qui s'appelle « Vous n'avez pas autre chose », c'est une fausse audition où les deux comédiennes passent des sketchs et où le chanteur essaie de proposer ses chansons. » Et bien c'était mon premier spectacle en cabaret, et on avait de temps en temps 40 personnes dans la salle, de temps en temps 5. Et comme la règle, c'est on joue, si on est plus nombreux que les gens dans la salle, ben on jouait. Et donc, c'était une très belle expérience. Et là, un jour, arrive Frédéric Botton. Il dînait avec Geneviève Bailac. Et
auteur de chansons de Régine, auteur de revues de cabaret à l'Alcazar au Paradis Latin, Frédéric Botton.
Il a écrit « Un petit poisson, un petit oiseau, ça met d'amour. »
Pour Juliette Gréco, oui. Voilà.
Mais comment s'y prendre quand on est là-haut ? Et donc, à un moment dans la mise en scène, je remonte pour quitter la scène, et je me retrouve au restaurant du cabaret. Et là, je rencontre Frédéric Botton, avec qui on discute, et puis, je sais pas comment c'est venu, je lui montre un début de chanson. Virage. Mais vraiment le début. Ah, il me dit, celle-là, il faut la continuer, elle est vraiment bien. Venez me la montrer chez moi, voilà mon numéro de téléphone. Je laisse traîner 8 jours, je l'appelle, et 15 jours plus tard, j'étais en studio, avec 40 musiciens, Alain Goraguer à la direction d'orchestre, chez Pathé Marconi. Et ça a été mon premier disque.
Il y en a eu d'autres depuis, d'autres virages aussi. On va en reparler dans quelques instants, Yves Dutheil, à travers une autre date importante pour vous, le 3 avril 1985. A tout de suite sur Sud Radio avec Yves Dutheil.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Yves Dutheil. Elle réveille vos souvenirs, des souvenirs chers à celles et ceux qui nous écoutent et qui vous aiment et qui parlent vrai, comme ici à Sud Radio. Une autre date, le 3 avril 1985. Qu'est-ce que c'est,
85, ça pourrait être la langue de chez nous.
Exactement, c'est cette chanson.
Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays.
Une chanson qui est devenue plus qu'une chanson, plus qu'un succès, un hymne. Moi, je me souviens un jour, j'arrive à Montréal. Première chose que je fais, je vais au Théâtre Saint-Denis où se produisait Yves Dutheil. Vous vous en souvenez peut-être.
Ah, oui.
Et j'ai vu les gens se lever et ovationner cette chanson.
C'est un des plus grands moments de ma carrière. C'était incroyable. C'est-à-dire que je n'avais pas encore enregistré la chanson. On venait juste de mettre quelques arrangements comme ça pour faire la chanson sur scène mais pour l'offrir au public québécois en primeur, parce qu'elle n'existait ni au Québec ni en France. Donc ça a été la surprise totale pour le public. Et je chante la chanson. Et à la fin de la chanson, une sorte de silence. Comme ça. Et tout d'un coup, les gens se lèvent et applaudissent. Mais d'une façon étonnante, quoi. D'une intensité, une vraie ovation, mais comme je crois, j'en ai jamais reçu dans ma vie, dans ma carrière. Et là, on avait vraiment tellement d'émotions que l'ingénieur du son qui faisait les retours sur scène, qui était donc sur le côté de la scène, m'a vu de profil. Après le spectacle, il m'a dit « La force de ce que tu as reçu du public était telle que tu es parti en arrière. Ça t'a poussé en arrière. » C'était un moment inoubliable.
Alors cette chanson est incroyable parce qu'elle est devenue non seulement un hymne, mais il y a des étudiants régulièrement qui travaillent sur cette chanson. Et j'ai trouvé une thèse à l'université de Göttingen par trois filles qui font étudier aux enfants allemands la langue de chez nous pour justement faire des comparaisons entre la France et l'Allemagne. C'est étonnant, hein ?
Ça, c'est une belle récompense.
Comment ça s'explique, ce triomphe, ce succès, cet hymne, Yves Duteil ?
Parce que je crois que c'est une chanson qui a une histoire et une intensité particulière. Elle a fait suite à une rencontre avec Félix Leclerc, chez lui, à l'île d'Orléans, en face de la ville de Québec, où on a passé la journée ensemble et où il nous a expliqué le combat des Québécois pour leur langue. Nous sommes 95% de francophones et on vit en anglophonie. On doit apprendre les cantiques anglais. Quand on s'adresse à l'administration, elle fait semblant de ne pas parler français, elle nous oblige à parler anglais, etc. C'est irrespirable. Donc le combat par rapport à la culture francophone, je veux dire, était là devant moi, personnifié par ce soldat de la culture qu'était Félix Leclerc.
Et c'est un combat toujours d'actualité, puisqu'aujourd'hui, dans la langue française, on emploie notamment dans les médias des mots incompréhensibles en anglais. Je pense que la langue de chez nous doit être plus que jamais défendue, Yves Duteil.
Oui, il y a aujourd'hui une déperdition. Je ne l'aurais pas dit il y a quelques années, et là, je la constate, je me rends compte qu'il y a presque une volonté d'appauvrissement par une simplification peut-être excessive qui va gommer l'origine des mots, leur histoire, les complicités qu'ils contiennent dans ce qu'on a en commun, comment on peut arriver à comprendre pourquoi ils s'écrivent comme ceci et pas comme cela. Tout ça risque d'être gommé. Et pourtant, la littérature a quand même encore de beaux jours devant elle, et la langue française est tellement belle qu'elle a ses amoureux dans le monde.
Oui, et il faut la défendre auprès des jeunes générations. Alors, avant la langue de chez nous, il y a eu beaucoup d'autres chansons, Yves Duteil. Il y a eu un festival à Spa, qui a été le déclenchement de votre carrière, je crois.
Ah oui, alors ça aussi, c'est une date dans ma vie, parce que je concourais pour le festival de Spa, qui était un concours international où chaque concurrent représentait son pays, donc je représentais la France. Et c'était mon premier disque, c'était l'écritoire, c'était des chansons, Quand on est triste, qui n'est pas une chanson qui a laissé vraiment une trace indélébile, et pourtant elle a gagné le prix du public. Et puis, voilà, j'étais reparti avec des prix. Le prix de la meilleure chanson et le prix du public.
Et ça a été extraordinaire. Et alors le prix, le grand prix, savez-vous à qui il avait été décerné cette année-là ?
Marie-Paul Bell.
Exactement, qui a, ouais. Sa carrière aussi est partie de ce jour-là.
Et Souchon était là aussi.
Souchon était là, mais il n'a pas été reconnu ce jour-là.
J'étais gêné parce qu'on est rentrés ensemble en train. Moi, j'avais envie de lui dire combien j'aimais ses chansons et à quel point je croyais à ce qu'il faisait. On a tous eu des carrières diverses, mais le succès arrive à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi, et lui, c'est arrivé un tout petit peu après ce festival.
Et puis vous, le succès est arrivé 2 ans plus tard avec cette chanson.
Vous savez la tarentelle, telle qu'on la dansait autrefois. Moi, je vous montrerai celle que demain l'on dansera.
Là aussi, c'est une aventure incroyable, la tarentelle, Yves Duteil.
Ben, j'ai mis 6 mois à l'écrire, hein, même si c'est une chanson très légère, comme ça. Mais je crois que j'ai écrit ça parce que Fugain avait écrit « Le printemps est arrivé, oui. Sort de ta maison ». Je me suis dit « Pourquoi pas moi ? Après tout, allez, on y va ». J'adorais ce genre de rythme et j'adorais ce genre de façon d'écrire. Et quand je suis arrivé au studio, c'était Claude Dejac, mon directeur artistique. Et donc on a dans les techniques d'enregistrement l'habitude d'essayer plusieurs fois les chansons. Et là, je commence. Bon, j'enregistre une version de la chanson. Et puis, bon, c'est la bonne version, il n'y a pas de problème, tout le monde est d'accord, on commence à l'habiller et tout. Puis, à un moment donné, dans le mixage, on écoute la guitare toute seule. Mais la guitare était complètement désordonnée, elle ne tenait pas le tempo. Si on l'écoutait toute seule, ça ne collait pas du tout. Donc tout le monde a dit, ah, il faut refaire une version. On en a fait 40, au moins. J'arrivais au studio, on faisait une version de la tarentelle. Puis comme j'y arrivais pas, j'ai fini par dire, bon, attendez, je vais faire un truc pour l'intro. J'avais fait une intro super compliquée. J'ai dit, je vais faire un truc simple pour l'intro. Je vais faire ton, ting, ton, ting, ton, ting, ton, ting. Vous avez appris la danse, danse. On n'a jamais pu enlever cette intro qui est devenue l'intro définitive de la chanson. Sauf que la version du disque, c'est la première que j'avais enregistrée.
C'est vrai.
C'est la première.
C'est fou ça. Alors ce qui est extraordinaire aussi, c'est le succès de la tarentelle que personne ne pouvait imaginer. Moi, quand j'ai entendu la chanson la première fois, je l'ai adorée, mais ça a fait des millions d'albums.
Oui, personne ne pouvait supposer ça. Mais je pense que dans ma carrière, c'est un peu comme ça que ça se passe. Personne ne peut supposer comment ça se déroule pour moi.
La tarentelle, c'est une danse, mais au départ, ça vient d'une ville de Tarente, en Italie, je ne sais pas si vous le savez, où il y a une araignée qui s'appelle la tarentule, et les gens qui souffrent de léthargie, qui risquent la mort, eh bien, on les sauve, la légende dit qu'on les sauve en dansant cette danse, la tarentelle.
C'est ce qu'on danse pour éviter d'être piqué par la tarentule.
Exactement.
Ouais, ouais, tout à fait.
Alors, ça vous a conduit à des prix, la langue française, à des concerts. Enfin, ça a été une spirale infernale qui a débuté, Yves Duteil.
Bah, les récompenses, elles ont cette vertu de vous apporter un apaisement quant à la reconnaissance de vos pairs. Quand vous êtes reconnu par des gens qui font la même chose que vous et pour lesquels vous avez de l'estime, ça vous conforte et ça vous donne envie de continuer. Mais je n'ai jamais demandé aucun prix.
Ah, vous en avez eu beaucoup.
Voilà, j'en ai beaucoup reçu et j'en suis très heureux parce que c'était... Quand on imagine qu'on a des parents qui vous préparent à être commerçant, à être notable, notaire, et qui finalement vous voient devenir saltimbanque et ont peur pour vous, c'est extraordinaire d'être récompensé comme ça. Je garderai toujours l'image de mon père m'accompagnant à l'Académie française pour recevoir la médaille de poésie pour la langue de chez nous.
C'est Brassens qu'il avait reçu quelques années avant. Brassens qui est un de vos maîtres, Yves Duteil.
C'est le bon maître. Brassens, c'est quelqu'un pour qui j'ai une très grande tendresse parce qu'il m'a montré qu'on pouvait faire ce métier chacun à sa façon. Qu'il n'y avait pas de voie toute tracée, qu'il y avait forcément des sentiers d'artisans, des manières de faire personnelles. Et je crois qu'il... Il était tellement anarchiste qu'il traversait dans les clous pour pas avoir à affronter les flics, comme il disait. Et donc, moi, je suis un peu comme ça aussi. Je supporte l'autorité de la compétence. Et donc, quand il y a des maîtres qui, avant moi, ont fait des choses que j'aime, je leur reconnais ce côté prescripteur dans ma façon d'être. Et Brassens, pour moi, c'est la liberté.
Et la liberté aussi, vous l'avez prise de vous engager. On en reparle dans quelques instants avec une autre date, le 19 mars 1989. À tout de suite sur Sud Radio avec Yves Duteil.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Yves Duteil. Elle réveille vos souvenirs, des souvenirs chers à celles et ceux qui nous écoutent à travers une date. 19 mars 1989, Yves Duteil.
Notre élection à la mairie de Précy-sur-Marne.
Un beau souvenir. Vous devenez maire de ce village. Alors, vous devenez maire sans aucune tendance politique, sans aucune étiquette.
Tout à fait. Mais c'est resté comme ça jusqu'au bout. Et en fait, c'est un accident de parcours, on va dire, mais un accident heureux, parce que c'est vraiment passionnant. On luttait contre l'installation d'une carrière à l'entrée même du village, et puis on s'est retrouvé, par ma notoriété, un peu en tête de pont de cette contestation, et puis de fil en aiguille, comme on s'apercevait qu'on n'était pas très efficace en tant qu'association, à un moment donné, avec Christian Dubois, qui était à l'époque notre ami, simplement comme ça, et on a décidé deux jours plus tard. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Trois mois après, il y avait les élections municipales, on se dit, mais c'est pas notre vocation, mais est-ce qu'on serait pas plus fatigué d'être la mouche du coche que d'être vraiment le calife à la place du calife, quoi. En gros, on n'avait aucune ambition personnelle.
Non, mais vous avez découvert un nouveau métier que vous avez appris sur le tas, Yves Duteil, celui de maire.
Absolument. Et au jour de l'élection, au premier tour, j'étais seul élu. Et je vous avoue que j'étais vert, mais pas forcément d'écologie, de peur. Quand vous décidez pour 6 années de prendre en charge un village de plus de 400 habitants à l'époque, et que vous n'avez aucune expérience municipale, je peux vous dire que vous avez peur. Et j'avais peur.
Et comment avez-vous fait pour apprendre ce métier ?
Ben en fait, on a beaucoup de soutien, d'aide. Il y a des fiches pédagogiques, il y a la sous-préfecture qui vous donne des indications de marge de manœuvre, de manière de faire. Et on finit par apprendre, parce qu'il y a des tas de choses qui sont purement techniques, l'urbanisme, l'administration. Et donc, on finit par s'y mettre. Et pendant 25 ans, on est resté dans ce grand bain de l'administratif. Je suis devenu un homme de dossier avec Noël, qui était maire adjoint, Christian Dubois, qui est resté avec nous jusqu'au bout. Et puis on a eu une vie extraordinaire avec toute une équipe, une secrétaire de mairie, Marie-Jo, qui est extraordinaire, des partenaires qui, du coup, sont devenus des amis, enfin, ou des vrais partenaires, c'est-à-dire que la fameuse carrière contre laquelle on luttait. On a fini par gagner un prix de l'environnement en commun avec elle. C'est des entreprises avec lesquelles on a travailler côte à côte. On a vraiment fait un travail d'environnement et d'urbanisme conséquent. On a réglé aussi des problèmes d'inondabilité. On voit en ce moment même à quel point c'était important. Et bah, après, si, c'est une chose qu'on a réglée et qui a servi de modèle, d'ailleurs, après, à d'autres méthodes de reconquête des zones inondables. Donc, on a vraiment fait un travail empirique, parce qu'on ne savait pas le faire, donc on a appris sur le tas, donc on a fait des choses qu'un administratif n'aurait peut-être pas faites.
Oui, Précis-sur-Marne, je le précise, c'est à une cinquantaine de kilomètres de Paris, pour celles et ceux qui ne savent pas. Et surtout, vous avez fait 3 mandats, ce qui correspond à l'actualité d'aujourd'hui, puisque les maires... 4 mandats.
C'est mes chemins de 4 mandats.
Ouais, exactement. Et il y a quelqu'un qui a fait comme vous d'ailleurs, qui a été maire dans le monde artistique, c'est Bruno Cocatrix, qui en 1971 est devenu maire de Cabourg, et savez-vous pourquoi ? Parce qu'en 57, il avait dirigé le Grand Hôtel, et à l'époque, il avait proposé que Cabourg devienne une station plus importante, touristique, et s'en occuper. Le maire de l'époque, Monsieur Thiers, s'y était opposé. Il l'a appelé ensuite son tiers provisionnel, d'ailleurs, comme il avait des problèmes avec les impôts. Et il a repris Cabourg, et il en a fait la ville que c'est aujourd'hui.
Et il lui a fait l'impôt.
Exactement. Alors, vous avez donc beaucoup travaillé pour ce village, tout en continuant à chanter, bien sûr.
Oui. Pour moi, c'était essentiel. Pas très pratique, pas très facile, parce qu'on a fait à peu près le calcul en moyenne avec Noël. Chacun, ça nous donnait à peu près 5 heures de travail quotidien.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup. Et c'est vrai que ça mangeait un peu ma carrière. Et Monique Lemarcy me l'a dit un jour, vous avez pris sur votre vie d'artiste. C'est vrai.
Oui, la vie d'artiste a quand même continué. Et un soir, à l'Olympia, il y a eu un concours et cette chanson a remporté le prix.
Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain.
On est à l'Olympia, on élit la chanson du siècle et qui gagne, devant la mère de Charles Trenet d'ailleurs, Yves Duteil.
Ah oui, j'étais abasourdi. J'étais à la fois le plus heureux des hommes et effondré de la masse de choses qui me tombaient sur la tête à ce moment-là. Être reconnu par un sondage public comme l'homme de la chanson du siècle, vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'il y a après ça? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ça? Ça pose un vrai problème, et ça me l'a posé.
Oui, je sais, c'était beaucoup plus dur de rebondir derrière. Et d'ailleurs, moi j'en ai parlé avec Charles Trenet juste après, il était ravi que vous ayez fait mieux que la mer, alors que la mer, il y a 4000 versions dans le monde. Il était à l'Olympia ce soir-là, il n'était pas du tout fâché.
Non, et il avait 2 chansons, lui, dans le palmarès.
Oui.
Et bon, moi j'ai toujours été un grand admirateur des chansons de Charles Trenet, et en même temps j'étais désolé de lui avoir, d'une certaine manière, volé un peu la vedette. Et je crois que j'ai dû me débrouiller avec ça, mais qu'en même temps... ça m'a sauvé d'une certaine routine d'écriture. Je me suis rendu compte à ce moment-là que l'écriture n'était pas quelque chose d'anodin. Que si le public se reconnaissait dans cette chanson-là, c'est qu'elle avait un côté universel que je cherchais, mais que je cherchais dans des grandes causes, mais que j'étais loin de me douter que j'allais trouver dans l'intime, dans le côté extrêmement personnel d'une chanson d'amour. Donc c'était pour moi aussi un signal.
Et comment est né Prendre un enfant par la main, Yves Duteil ?
De la façon la plus simple du monde, j'ai voulu consoler ma fille, qui était triste ce jour-là, je ne comprenais pas trop pourquoi. J'ai simplement pas forcément voulu la consoler de quelque chose, mais la consoler tout court. Et du coup, c'est devenu une chanson de consolation. C'est devenu après la chanson des baptêmes, la chanson des adoptants, la chanson de combat de ceux qui luttaient contre la maltraitance des enfants. Et du coup, c'est devenu une chanson d'engagement que j'assume encore aujourd'hui.
Et que vous préservez.
Et que je, oui, que je préserve. De quelle façon? Ben, on m'a tout proposé pour prendre un enfant, y compris qu'elle serve dans la pub. Mais je me suis dit, à partir du moment où cette chanson-là, qui appartient à tout le monde, serait associée à un nom de produit, ce serait mort. Elle n'aurait plus ce côté universel, ce partage simple et naturel. Et je n'ai pas voulu accepter. Et bon, à l'époque, ça nous aurait bien servi, parce qu'il y avait beaucoup d'argent à la clé. Mais je me sens dépositaire, comme par exemple pour La Langue de chez nous. Je n'imagine pas que cette chanson puisse servir en pub ou à quelque autre objectif que ce soit que d'être elle-même. Et évidemment, bah, ça me coupe de certaines réalités, on va dire. Mais en même temps, je crois que c'est très important.
Et ça, c'est votre côté éternel enfant dans votre tête, aussi dans votre cœur, car c'est une de vos qualités, Yves Dutheil. Et à propos de mots d'enfant, j'ai repéré il n'y a pas longtemps un professeur qui demande de primaire qui demande aux enfants ce que représente pour eux la vie. Et il y a un enfant qui a répondu cette phrase: le but de la vie, c'est de changer le fini en infini. Ça pourrait être un beau début de chanson.
C'est presque la définition du rêve. Le rêve, c'est quelque chose qui n'a pas de limite, mais qui s'inscrit dans la réalité. À un moment donné, on rêve de quelque chose, et puis un jour, ça se réalise, pas comme on aurait pensé, pas là où on aurait pensé, pas de la façon dont on aurait imaginé, mais ça prouve que le rêve est un des moteurs essentiels de la vie.
Et les enfants sont aussi un moteur. Vous avez défendu beaucoup d'enfants, beaucoup plus discrètement que d'autres artistes, avec des associations. Vous êtes allé en Inde. C'est aussi quelque chose de très important pour vous, Yves Dutheil.
Vous savez, la notoriété, c'est un cadeau. On a ce cadeau de la part du public et on a envie que ça serve à quelque chose, qu'il y ait un retour de miroir, une éclaboussure de cette chance que vous offrent les gens. Et vous avez envie que le projecteur, grâce à ça, puisse se tourner vers des causes moins visibles. Il y a des causes qui, par nature, attirent beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, qui font beaucoup de lumière. Et puis, il y a des causes qui, bizarrement, restent dans l'ombre, alors qu'elles sont tout aussi importantes, utiles. La mucoviscidose, les enfants malades, la chanson française, hein, qui a aussi besoin d'aide, l'environnement, déjà depuis longtemps, et puis le tsunami, à un moment donné, le frère de Noël est en Inde, et puis il vit ce tsunami en direct, et il se retrouve avec des familles complètement désespérées, qui ont perdu un des leurs ou plusieurs, et tous leurs outils de subsistance, le bateau de pêche, puis le frère de Noël, il a un chantier naval, donc il invente un bateau de pêche pour deux pêcheurs et il les fabrique, puis ensuite il apprend à les fabriquer aux familles indiennes, et puis à un moment donné on s'aperçoit que la vraie solution, ce serait une solution d'avenir pour les enfants, et on décide de construire une école. Tout ça est complètement fou. Et bien on a construit l'école, en 2009 elle a ouvert, et aujourd'hui elle fonctionne avec une centaine d'enfants des tribus les plus défavorisées, et on peut les parrainer.
Et tout ça dans l'ombre, alors que vous vivez une partie de l'année au soleil en Corse. Vous avez avec Noël acquis une propriété, un petit endroit tranquille, et vous avez été adopté par les Corses, Yves Dutheil, ce qui n'est pas toujours facile pour un artiste du continent.
Ben non, on a eu la chance d'être entré dans la Corse par la famille, et là on a accès à tous les secrets de famille, à toutes les petites complicités qui font que ce pays est non seulement merveilleux au niveau du paysage, de la montagne, de la mer, du soleil, mais des gens aussi. Et on est tombé amoureux des gens et de la Corse, les talents extraordinaires de tous ces gens qui développent des savoir-faire nous ont touchés. Et le jour où il y a eu un gros incendie dans un endroit qu'on adore, une pinède à Palombadge, 800 hectares de pins multicentenaires détruites. On s'est dit, là, on pourrait peut-être faire quelque chose. Toujours cette volonté de mettre la notoriété au service de quelque chose. On a créé Après, Association pour le reboisement des espaces sinistrés. Et là, on a invité Raymond Devos à faire un concert, une soirée, au cours de laquelle on a récolté assez d'argent pour planter 20 000 arbres sur 10 000 hectares. Et on a une forêt là-haut maintenant, mais aussi mener une action qui nous a fraternisés avec les Corses. Ils se sont rendus compte qu'on n'était pas juste là pour profiter, mais aussi pour partager.
Et puis, justement, vous êtes passé aussi du soleil à la montagne, à Albertville en 92, on le sait peu, mais l'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville, il y a une chanson, une musique d'Yves Dutheil.
Oui, grande aventure. C'est Michel Barnier qui m'avait proposé en fait d'écrire une chanson pour
la
les
fleur,
Jeux Olympiques.
La fleur de l'impossible, je crois.
La fleur de l'impossible. Alors je suis allé là-bas à Albertville, j'ai descendu la piste noire, en fait la piste de la descente homme, encadrée par les gens d'Albertville qui m'ont aidé, parce que je ne suis pas un skieur de ce niveau, bien évidemment. Et j'ai découvert les sensations extraordinaires qu'un champion de haut niveau pouvait avoir en voyant le dénivelé depuis le haut jusqu'au point d'arrivée. Et je peux vous dire que c'est impressionnant. Et pour moi, c'est devenu la fleur de l'impossible. Cette fleur qu'il faut arriver à cueillir comme un Edelweiss inaccessible et qui doit devenir accessible à un champion. Je me suis dit, il faut écrire cette chanson. Et j'ai écrit la chanson, et elle a été effectivement la chanson labellisée par le COJO pour les Jeux Olympiques de 92.
Et pour l'ouverture, pour la cérémonie d'ouverture, il y avait un jeune chorégraphe que personne ne connaissait, qui débutait, qui était Philippe Découfflé,
oui.
Et qui sa carrière a vraiment commencé ce jour-là.
Oui, parce que finalement, cette chanson n'a pas été la chanson des Jeux Olympiques, simplement parce qu'ils ont changé d'optique à un moment donné, ils ont confié l'ensemble des cérémonies à Philippe Découfflé, et la chanson ne rentrait plus dans son projet. Mais il m'a écrit vraiment très gentiment en disant « ça n'est pas du tout un jugement de qualité par rapport à votre chanson, soyez totalement rassurés, c'est simplement voilà, parce que c'est un autre projet ». Et le premier projet d'ailleurs, qui avait déboulonné la chanson d'une certaine manière, c'était celui, attendez, son nom m'échappe pour l'instant, mais ça va me revenir, oh, il a écrit « L'ours », il a écrit « La guerre du feu ».
Oui, Jean-Jacques Haneau.
C'est Jean-Jacques Haneau, voilà. Et il a eu la même attitude vis-à-vis de la chanson.
Et il y a une autre de vos chansons, « Mélancolie », que vous avez entendue un soir à Pressé-sur-Marne dans des conditions étonnantes, par Barbara, je crois, Yves Dutheil.
Oui, Barbara habitait ce village depuis un an, quand nous y sommes arrivés, et on ne s'est rencontrés que 3 ans plus tard, un jour, devant chez elle, par hasard, et elle nous a invités. Donc on est allé manger un excellent gâteau et boire un thé chez elle, et la rencontre a duré beaucoup plus longtemps que prévu, et à un moment, elle s'est mise au piano et elle m'a chanté « Mélancolie ». Alors là, j'avoue que j'ai perçu toute la magie de cette femme étonnante, généreuse, sensible, vibrante. Et quand elle vous chante une chanson comme « Mélancolie », et là, vous êtes pétrifié à la fois de bonheur, d'émotion, de surprise, de voir qu'elle connaissait cette chanson. Et c'était un grand moment.
Aujourd'hui, une rue de Pressy-sur-Marne évoque son souvenir, je crois.
La rue de la Petite Cantate.
Oui.
La Petite Cantate était une chanson de deuil. Et c'est cette chanson qui nous a donné envie, en fait, après son départ, de laisser une empreinte de Barbara dans le village. Alors, un bâtiment, sa maison qui était en fait léguée à...
Sa gouvernante, je crois.
À Béatrice, oui. Sa gouvernante, la personne en qui elle avait vraiment confiance, ne pouvait pas donc devenir un musée. Donc, il fallait trouver quelque chose. Donc, on a créé une rue. Une rue, non pas une rue Barbara, mais une rue de la Petite Cantate, qui est une sorte de précis jardin. Et on a inauguré, dans l'intimité, cette rue. J'ai chanté la chanson à la guitare dans la rue de la Petite Cantate, devant quoi ? 30 personnes. Mais c'était un grand moment quand même. Et quand Barbara a disparu, nous sommes allés à Bagneux, au cimetière, apporter, à l'époque il y avait 435 habitants, à Précy, on a apporté 435 roses pour déposer sur sa sépulture. Et quand tous les officiels ont été partis, les 3000 personnes du public qui assistaient aux obsèques se sont mises à chanter. « Dis quand reviendras-tu ?» Je vais vous dire que c'était un moment extraordinaire.
D'autres moments d'émotion, mais beaucoup plus récents. On va en parler dans quelques instants avec une autre date très récente, le 12 janvier 2018. A tout de suite sur Sud Radio avec Yves Dutheil.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Yves Dutheil. Elle réveille vos souvenirs, des souvenirs chers à celles et ceux qui nous écoutent à travers une date, 12 janvier 2018, sortie de votre 15e album qui s'appelle Respect. Et cet album, l'idée de cet album, le principe de cet album est né au lendemain de la manifestation de soutien à Charlie Hebdo, Yves Dutheil.
Comme le titre de l'émission, il y a des moments clés dans la vie, des moments où les choses évoluent, changent, la couleur du temps n'est plus la même, l'ambiance, ces attentats qu'on avait tous traversés, le premier, celui enfin la première série après Mohamed Merah à Charlie Hebdo et puis la suite. Mais ce moment-là, du 11 janvier 2015, où on s'est tous retrouvés dans la rue, collés les uns aux autres de façon tellement serrée qu'on ne pouvait même plus avancer, le cortège était immobilisé. Ce n'était plus une manifestation, c'était une cohorte, c'était une foule. Et tous les uns à côté des autres, on était extrêmement vulnérables. Et curieusement, on n'avait pas peur. On a tous vécu un moment, je dirais exactement comme pour l'affaire Dreyfus, un moment de la conscience humaine. Il s'est passé quelque chose ce jour-là, on était tous réunis, sans mettre de mots là-dessus. On a mis le mot Charlie, mais en fait, on était tous là pour des raisons individuelles. Chacun, à sa façon, on voulait témoigner, manifester contre ce que l'on voyait être une direction que le monde risquait de prendre si on ne se levait pas pour l'empêcher. C'était une armée de résistants, pacifiques, paisibles, mais très, très puissante.
D'ailleurs, Charlie, effectivement, le mot est peu importe, puisque c'était Harakiri qui a été interdit quand il y a eu balle tragique à Colombey, et le professeur Choron avait à l'époque le titre Charlie, parce que ça correspondait aux Peanuts et à Charlie Schulz, créateur de Snoopy, et c'est pour ça qu'il a pris ce titre, sans imaginer qu'il deviendrait culte. Et il y a une chanson de cet album, d'ailleurs, qui évoque ce jour-là.
Tous égaux dans la même course, pour boire à l'eau des mêmes sources, partager les mêmes regrets, assoiffé d'amour à jamais.
Arme d'amour, armée d'amour.
Armée d'amour, ni drapeau blanc ni drapeau noir, de la musique et de l'espoir.
Un message d'espoir et de bienveillance.
Oui, parce que c'est notre arme la plus puissante. Le respect, la bienveillance. En fait, j'ai relevé une phrase d'Albert Einstein, très intéressante, qui dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. »
Et vous avez même dit un jour, dans une chanson, « Le monde sera sauvé par les poètes, les savants et les fous, Yves Duteil. »
Ouais.
C'est ça qui correspond à ça.
Parce que je crois que la force de la conscience, c'est quelque chose qui est irrésistible. C'est une force... on voit dans des pays des gens qui sont emprisonnés, des Mandela, des gens comme ça. La force de leur volonté, la conviction qui est la leur, est indestructible. Quand ils sortent de prison, c'est comme une parenthèse qui se referme. Rien n'a changé en eux. Ils sont toujours aussi véhéments, aussi certains de la force de leur conviction. Et je crois qu'on est pareil et que c'est ça qui peut arriver à contrebalancer cette volonté du mal, cette volonté de destruction, cet acharnement. D'ailleurs, il y a d'autres chansons dans l'album, une qui s'appelle « À l'abri du meilleur », qui dit « Nous aurons beau tout faire pour nous garder du pire, on n'est jamais vraiment à l'abri du meilleur. »
C'est vrai. Et « Respect », c'est le titre de l'album, et c'est aussi le titre de la première chanson.
« Respect, c'est la force qui nous inspire pour pouvoir résister au pire. »
Et d'ailleurs, sur la pochette de l'album, il y a un symbole qui rappelle le respect, ce respect que vous trouvez très important, Yves Duteil.
Oui, alors je salue l'idée du graphiste de la pochette de l'album, parce que c'est lui qui a pensé à ce symbole, qui est simplement un émoticône, l'émoticône respect. Deux mains qui sont exposées avec les paumes en avant, et puis des petites étoiles au-dessus pour signifier l'émotion. Et ce symbole nous a semblé, comme ce titre, refléter exactement à la fois ce qui manque un peu à la société d'aujourd'hui et ce qui en ressort. Parce que si on regarde vraiment objectivement, on n'a jamais eu autant de mouvements en faveur du respect, des associations caritatives, des médecins sans frontières, des médecins du monde, des pharmaciens, des ceci, de cela, du monde, sans frontières, etc. Et aussi des actions ponctuelles à des endroits où simplement des individus se sont ligués pour apporter une solution locale à des problèmes que l'État ne peut pas prendre en charge. Donc le respect, la solidarité existe.
Et puis respect, c'est un mot qu'on entend souvent, quelquefois, chez les gens, quand ils respectent quelqu'un, ils veulent dire du bien de quelqu'un. J'ai trouvé aussi une chanson d'Otis Redding, de 65, qui s'appelle Respect. C'est aussi le titre d'une chanson du groupe Alliance Ethnique, en 95, et c'est un magazine français fondé en 2003 qui s'appelait Respect aussi.
Aujourd'hui, c'est un mot qui s'écrit avec un accent, avec un point d'exclamation.
Oui.
Et en général, on fait un petit signe de tête en même temps, ça veut dire admiration, ça veut dire respect, quoi.
Alors cet album, Yves Duteil, vous a demandé 2 ans de travail. Avec une équipe nouvelle, vous avez fait confiance à votre arrangeur et c'est très important pour vous.
Je crois qu'il y a des rencontres dans l'existence et avec Franck Montbellet, c'est une de ces rencontres-là. On a fraternisé en termes musicaux, en termes humains, il m'a apporté en fait peut-être ce que je recherchais depuis longtemps et que j'avais pas encore trouvé. C'est l'interprétation peut-être plus rythmique de mes chansons, le développement dans un esprit plus musique de film et la dimension que je rêvais d'avoir dans certaines de mes chansons, d'aller vers James Taylor ou Paul McCartney sans avoir forcément la personne.
Et puis il y a quelqu'un aussi qui a beaucoup soutenu votre travail en permanence en vous obligeant à couper des phrases, à reprendre certaines choses. Et cette personne, vous l'évoquez justement dans une chanson.
Ces rues qui mènent à notre insu, des milliers de pas éperdus ne sont pas le fruit du hasard. Il fallait qu'on s'y trouve un soir.
40 ans plus tard, c'est un hommage à Noël, votre femme, Yves Duteil.
Oui, c'est une chance de l'avoir rencontrée. Et c'est vrai que ce disque n'est pas seulement un disque qui parle de choses graves et de choses importante aux yeux de la société, etc. C'est aussi un disque d'amour, parce que on a la chance de s'aimer depuis longtemps, et j'ai toujours eu le sentiment d'être un peu la voix de ceux qui s'aiment longtemps sans avoir les mots pour le dire. Je me sens parfois un peu écrivain public. Vous savez, ces gens qui écrivaient « Je t'aime » ou des lettres pour un baptême, et qui ne savaient pas, parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise des mots. Moi, j'ai eu cette chance de naître avec la passion des mots. Et Noël a exacerbé cette passion, elle l'a servi en me poussant toujours plus haut, plus loin, dans l'écriture. C'est à elle qu'on doit, par exemple, dans la langue de chez nous, le couplet qui donne le titre à la chanson. Parce que quand j'ai fini pour moi le texte, je lui ai montré, et là elle me dit « Ah ouais, c'est bien, hein, c'est bien ». Mais je pense que tu peux aller plus loin.
Et voilà.
Et toujours ce « mais » m'a porté. Et en fait, c'est dans le couplet que j'ai rajouté, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges et qu'on y parle encore la langue de chez nous. Et voilà, il s'est passé ça aussi dans ce disque Respect. C'est pour ça que j'ai mis si longtemps à travailler les textes que j'ai du mal à les mémoriser parce qu'il y a eu 20 versions de chacun des textes avant la finale et qu'au fond, je n'ai plus une virgule à changer parce qu'elle a mis tous les points finaux.
Et puis il y a une chanson justement, et je suis sûr que Noël l'a aussi relue avant enregistrement, une chanson qui prône la tolérance.
Mohamed, Aïcha, Karim, Fatima, Hayat, Fawzi.
Mohamed, Aïcha, ça aussi c'est quelque chose qui vous tient à cœur, Yves Duteil.
Oui, parce que tous ces prénoms pour nous sont des visages. On vit dans un monde qui globalise tout, donc les musulmans, les djihadistes, voilà. Il y a une espèce d'amalgame qui est fait. Et pour moi, la tolérance, c'est pas forcément tout tolérer. C'est simplement regarder les gens comme ils sont, des individus, et pas une espèce de truc global où il y a des gens qu'on habille tous pareil, avec des pancartes, je suis ci, je suis ça, voilà, je viens défendre ça, et on est tous ensemble, et on met un uniforme pour se différencier. Moi, je pense que les musulmans aujourd'hui doivent souffrir, et je l'ai vu, puisqu'on a vu autour de nous les musulmans les plus proches de nous pleurer après les attentats parce qu'ils ont les mêmes chagrins que nous en voyant cette horreur. Sauf qu'ils la vivent, eux, en étant les premières victimes, parce qu'il n'y a pas de quartier. Hein. Quand j'ai écrit Armée d'amour, la première phrase qui m'est venue, c'est « De nos sangs mêlés sur le sol, on voit naître un nouveau symbole, un flot d'amour en résistance, fait de douleur et d'espérance ». Et quand j'ai vu nos proches musulmans pleurer après certains des attentats, je me suis dit, il faut leur dire que pour nous, c'est pas eux, quoi. Et j'ai eu envie de leur faire une chanson d'amour à eux aussi.
Et vous avez fait aussi des chansons d'amour à votre famille, comme celle-ci.
Les Noëls, les anniversaires, et les robes qui tournent en l'air, les costumes, la danse et la couture, les myrtilles.
Très belle chanson, Mamie, Mamita, Mamino, c'est votre grand-mère ?
C'est pas ma grand-mère, c'est celle de Noël,
oui.
Sa maman et Noël. C'est-à-dire les trois générations de femmes qui, toutes les trois, ont eu des enfants très tôt et qui ont vécu, donc, en se passant le flambeau d'une tradition, d'une transmission qui est très importante à mes yeux parce que je crois que la mémoire que l'on garde des gens qu'on aime, c'est une mémoire vivante. Elle ne vit qu'à travers les gens qui nous suivent. Donc, la transmettre, c'est très important. Et ça, c'est vraiment la chanson de la transmission, avec le passeur de lumière aussi, qui en est une autre.
Et vous évoquez d'ailleurs la rue du Moulin Vert, où vivait cette grand-mère. Et il y avait là la guinguette la plus célèbre de Paris. à l'époque.
Oui.
Oui, c'était tout le monde y allait. Elle a totalement disparu aujourd'hui, mais elle a existé. Il y a une autre chanson très importante aussi qui ne parle pas de guitare mais de piano.
Mon piano a 100 ans, il a vécu l'enfer et les années perdues, le silence et de guerre.
Mon piano a 100 ans. Et il ne les fait pas.
Non, il ne les fait pas. Parce que c'est un piano qui existe. C'est sur ce piano que j'ai écrit la chanson, d'ailleurs. Et à travers lui, en fait, je raconte l'histoire de toutes les familles qui se sont succédées sur son clavier. En 100 ans, il y a eu des enfants, il y a eu des soldats disparus, il y a eu des guerres, il y a eu des silences, des drames, des bonheurs, des gens qui se sont rencontrés, des amoureux qui ont joué à quatre mains. Sur des partitions particulières, on va dire, toute une vie. Et la beauté de l'histoire, c'est sa continuité à travers ce clavier. C'est un piano, mais c'est aussi tous les pianos que j'ai rencontrés dans ma vie qui se retrouvent dans celui-là.
Il y a un piano beaucoup plus vieux que celui-là, c'est celui de Bartolomeo Cristofori, qui a créé en 1731 le pianoforte, qui est l'ancêtre des pianos, et qui est aujourd'hui dans un musée de New York. Et puis, il y a quand même une chanson d'espoir, vous l'évoquiez, c'est le passeur de lumière.
Un peu de frison roche, un soupçon d'Archimède, un grain de moitié cire, et d'Henri de Montfrère.
Chanson d'espoir dans l'avenir, Yves Dutheil.
Oui, parce que c'est un homme du passé, qui est toujours présent, mais qui m'offre l'avenir à travers son regard, à travers sa curiosité, sa culture immense et à la fois son humanisme et son émerveillement. Avoir un homme émerveillé de 93 ans devant soi, c'est quand même un grand espoir pour l'avenir.
Alors l'avenir justement...
Et c'est le papa de Noël.
C'est le papa de Noël, voilà. En plus, qui a le même âge que Charles Aznavour, je crois, et qui est en pleine forme comme Charles Aznavour.
Voilà. Et qui est passionné d'astronomie, d'histoire, du désert, de la montagne, de la mer, de science, qui me passionne.
Alors, qu'est-ce qui vous passionne, l'avenir maintenant? Votre avenir, Yves Dutheil, vous allez continuer? Vous partez en tournée? Vous continuez à préparer des chansons?
Pour l'instant, j'ai envie de développer celles qui sont sur cet album Respect, en faisant le spectacle qui correspond, et en le développant avec l'esprit de l'album, avec Franck pour les arrangements aussi. Donc, oui, je pense qu'on va traverser des périodes inédites. On est dans une révolution totale. Notre ère est un bouleversement inédit, complet. Donc oui, il va y avoir matière encore à inspiration.
Je ne doute pas un instant que vous soyez inspiré dans les mois à venir. Je rappelle que cet album s'appelle Respect. Il y a 12 merveilleuses chansons que je suis sûr, celles et ceux qui vous aiment vont écouter en boucle. Merci Yves Dutheil d'avoir participé à C'est clé d'une vie. Et puis, dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaie et ensuite Yann Folie, comme tous les jours, sur ce radio où l'on parle vrai. Merci encore, continuez sur le même chemin surtout, ne changez rien.
Merci beaucoup, merci.
Tout de suite, la suite de notre programme, comme on disait jadis à la radio. Nous, on se retrouve demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Merci encore, bonne journée.